Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
L'appel a été lancé il y a quelques jours dans le journal Le Monde par Nicolas Hulot et Laurent Berger, secrétaire général de la CFDT, un appel pour un nouveau pacte social et écologique avec à la clé 66 propositions pour faire face à l'urgence sociale et économique. Une proposition, quoi que l'on en pense, qui aidera à la prise de conscience collective que tout est lié, comme le répète à l'envi le pape François, écologie, questions sociales et économie. Pour nous en persuader un peu plus, cette émission ce matin sur la vie d'entreprise et l'écologie, que dit l'Église sur ce sujet ? Que peuvent faire les entreprises ? Explication. Vie d'entreprise et écologie, c'est donc le thème de l'émission Vivante Église de ce matin, avec autour du plateau Gilles Danroc. Honneur aux anciens prêtres religieux dominicains, enseignants à l'IERP, Institut d'études religieuses et pastorales à l'Institut catholique de Toulouse. Bonjour.
Bonjour, merci de faire référence à mon âge.
Parlez bien près du micro. Christophe Aubé, chef d'entreprise et membre des EDC, entrepreneurs et dirigeants chrétiens, bonjour.
Bonjour.
Et alors, on devait avoir quelqu'un du MCC, puisque je rappelle que cette émission mensuelle est en partenariat avec les EDC, entrepreneurs et dirigeants chrétiens, et le MCC, mouvement chrétien des cadres et dirigeants. Mais voilà, on va dire que c'est compliqué parfois d'arriver à trouver de la place dans les agendas des uns et des autres quand tout le monde a des activités bien prenantes. On remercie en tout cas Christophe Aubé ce matin de s'être libéré. Comme d'habitude, on va... Et le frère Gilles Danroc, évidemment, et qui va finir par me faire perdre mon sang-froid. Ce matin, comme d'habitude, donc on va essayer de se plonger un petit peu dans l'enseignement de l'Église sur le sujet. Alors là, vaste, on va dire, grand challenge pour le frère Gilles Danroc. Vie d'entreprise et écologie, le sujet est vaste. On s'est dit qu'on allait partir donc de l'encyclique du pape François, que l'on parcourt à cette antenne aussi une fois par mois, en partie grâce à vous, frère Gilles, et partir du chapitre 3, la racine humaine de la crise écologique, chapitre que l'on a déjà largement abordé. La première chose, et Christophe Aubé en parlait lors de la préparation de l'émission, c'est peut-être de redire ce qu'est ce paradigme technocratique que le pape François dénonce comme un peu, va dire, quoi, l'ennemi juré de l'homme et de la planète qui a cours en ce moment et qui régit un peu notre système économique. Comment vous présenteriez ce paradigme technocratique, frère Gilles Danroc?
Ben, je vais essayer de le faire avec les mots mêmes de Laudato Si et du pape François, qui reprennent effectivement, mais dépassent d'une certaine manière les textes classiques de la doctrine sociale, puisque le domaine de l'écologie est un domaine un peu nouveau par rapport au développement interne de la doctrine sociale de l'Église. Et il s'agit, je cite donc des termes, de développer une critique originale de ce que le pape appelle le paradigme technocratique dominant, qui tend à faire de la méthodologie et des objectifs de la technoscience un paradigme de compréhension qui conditionne la vie des personnes et le fonctionnement de la société. Alors, petite explication de texte, parce que les mots sont un peu difficiles, et tout ce chapitre 3 demande parfois un travail plus mal à main, parce que, ou en groupe, hein, pour essayer d'être bien clair sur les mots qu'on utilise. La première chose que je voudrais dire, c'est qu'il s'agit d'une dimension critique. Le constat a été fait que la planète, notre maison commune, au chapitre 1er, est soumise en ce moment à la loi du déchet, la pollution, tout ce que le réchauffement climatique, tout ce que nous constatons les uns et les autres et qu'on a déjà abordé à propos justement de Laudato Si. Et devant cela, on a fait le constat des effets. Et maintenant, on développe une prise de conscience des causes, une recherche des causes sous-jacentes à tout ce qui se passe. Et il y a, dans la doctrine sociale de l'Église, une dimension critique. de façon très classique, depuis les origines, on a dit la doctrine sociale de l'Église est une critique du marxisme, une critique du communisme.
Une critique du paradigme technocratique.
Voilà. Là, nous sommes en pleine critique.
Alors expliquez-nous ce qu'est ce paradigme technocratique, introduction faite. Qu'est-ce que le pape entend par là, en fait ?
C'est ce qui est ce que je disais en le citant tout à l'heure. C'est le fait qu'il y a un modèle dominant, paradigme égale modèle, donc entendons-nous sur le mot, un modèle au sens d'une grille de compréhension des activités humaines, aujourd'hui, un modèle. Et ce modèle est basé, comme il le dit, comme une méthodologie et objectif de la technoscience. C'est-à-dire que la technoscience, le rapport de la technique à la science, on parlera plus tard de technocratie, c'est-à-dire le gouvernement, et puis de technostructure, voire de présence de la finance dans ce cadre techno-scientifique. C'est-à-dire que la méthode des sciences s'applique à la compréhension du monde. Mais cette méthode exclut toute autre approche qu'une méthode scientifique, qui vise par la technique à la transformation du monde comme une fin en soi. Transformer le monde comme une fin en soi, et ceci se passe par le développement des sciences expérimentales qui utilisent le monde dans ce but de transformation du monde.
Alors si on cite un autre passage, c'est le paragraphe 109, vous l'avez dit, oui. Donc la finance, le paradigme technocratique tend aussi à exercer son emprise sur l'économie et la politique. L'économie assume tout le développement technologique en fonction du profit, sans prêter attention à d'éventuelles conséquences négatives pour l'être humain. Et puis le pape ajoute, les finances étouffent l'économie réelle.
Voilà.
On s'était dit qu'on se pencherait aussi donc sur le paragraphe 5. Alors c'est un peu du pointillisme, parce que on va vite. Une autre chose à avoir en tête à propos donc de la vie de l'entreprise et de l'écologie, ou en tout cas du discours de l'Église là-dessus, c'est la critique du mythe du progrès infini, si on peut le dire la chose comme ça. Oui. Paragraphe 105. On a tendance à croire que tout accroissement de puissance en soi est en soi progrès, un degré plus haut de sécurité, d'utilité, de bien-être, de force vitale, de plénitude des valeurs, comme si la réalité, le bien et la vérité surgissaient spontanément du pouvoir technologique et économique. Qu'est-ce qu'il faut entendre derrière ça ?
Ouais, tout à fait, mais ça, la critique du progrès est déjà ancienne. En gros, toutes les critiques du progrès se basent sur la dernière guerre mondiale et en particulier l'utilisation de la bombe atomique à Hiroshima. Pourquoi un progrès techno-scientifique s'il peut aboutir au contraire du bien-être de l'homme, s'il peut aboutir à de la destruction ? Donc, le progrès d'une découverte scientifique qui donne lieu par aussi la structure même de la pensée scientifique, c'est-à-dire il y a les sciences dures et les sciences molles, ou les sciences d'application, ou les sciences humaines, et donc toute cette organisation du monde où on va de soi vers un progrès indéfini est déjà remise en question, et c'est d'ailleurs ce qu'on appelle la culture post-moderne, et critique la culture moderne au sens où le progrès allait de soi. Ça ne veut pas dire que dans les têtes, ça ne continue pas à fonctionner comme ça.
Et ce qui ne veut pas dire aussi que le christianisme exclut une notion de progrès.
Non, bien sûr, mais le christianisme, pour le dire vite, et toute la doctrine sociale de l'Église, c'est de soumettre toutes les activités humaines d'abord à un regard éthique. Est-ce que c'est pour le bien ? Par exemple, est-ce que c'est parce que l'on peut faire quelque chose avec telle technique qu'il faut le faire ? Or, c'est ce qui semble s'imposer par ce modèle dominant. Et donc, la première question éthique, c'est est-ce que ce progrès ou cette cette avancée, comme on dirait par ailleurs, techno-scientifique, produit, concourt au bien commun de la planète, ou au contraire est en défaveur du bien commun. Le bien commun étant à la fois la nature, à la fois la société, et donc dès qu'il y a des ruptures de pauvreté, voire de misère, il faut remettre en question ce qui le produit, et en même temps aussi on va parler d'écologie humaine, tout est lié, c'est-à-dire aussi le bien de la personne. Est-ce que le bien de la personne, le respect et la dignité de la personne est respecté?
Alors il y a une autre expression dans Laudato Si, c'est que le pape François parle d'écologie économique. Le paragraphe 141, « Par ailleurs, la croissance économique tend à produire des automatismes et à homogénéiser en vue de simplifier les procédures et de réduire les coûts. C'est pourquoi une écologie économique est nécessaire. » Et après, le pape continue, « capable d'obliger à considérer la réalité de manière plus ample. » Comment est-ce qu'il faut concevoir, on va dire qu'on descend un petit peu des couches jusqu'à arriver à la vie de l'entreprise, qu'est-ce que le pape François appelle derrière l'écologie économique? Là, c'est le chapitre 4, écologie intégrale.
Et voilà, justement, le chapitre 4, il faudrait tout lire en même temps, n'est-ce pas, Christophe? Et il faudrait tenir ensemble l'aspect proposition, l'aspect critique et l'aspect reconstruction. Parce que tout l'effort humain pour les sciences et les techniques, c'est aussi un bien pour peut être un bien pour l'humanité. Ce n'est pas voué à détruire la planète. Mais il y a au milieu quelque chose que on appelle l'anthropocentrisme déviant, et c'est là qu'il y a les racines du mal. Et on peut utiliser l'intelligence humaine, on peut mettre ensemble et en synergie les savoirs humains, parcellariser. On peut essayer de redonner des axes de recherche pour le bien de la planète, au lieu de les mettre au service d'une domination du monde.
Et là, il n'y a pas marqué écologie scientifique ou écologie technique, il y a marqué écologie économique.
Oui, c'est l'économie au sens fort du terme, tout ce qui organise les activités humaines. Vous voyez, l'économie, c'est aussi le champ d'application des activités humaines, qui sont coordonnées par l'économie. Au lieu d'être dispersées, chacun dans sa parcelle de savoir ou dans sa parcelle de pouvoir, et il faut organiser, et on va avoir aussi, dans le chapitre 3, justement, le problème de la technocratie, c'est-à-dire quand c'est organisé uniquement pour une transformation et domination du monde, à ce moment-là, justement, on est conduit à détruire le monde. Mais on peut utiliser l'économie, au contraire, et c'est le chapitre 4, c'est une proposition positive. Il ne faut pas dire que Laudato Si est une critique triste et catastrophisante, comme on pourrait créer ce mot, de ce qui se passe dans le monde. Au contraire, c'est une réutilisation de l'économie et en même temps une mise en œuvre par l'économie de tout ce que l'intelligence humaine et la volonté humaine peut mettre en œuvre, non pas pour la destruction, mais pour le bien.
Frère Gilles Danroc, est-ce qu'on pourrait pas, à ce stade, vous me direz, c'est qu'aussi on n'a pas beaucoup de temps, mais se dire que c'est un challenge bien exigeant pour tous les acteurs de la vie économique et de la vie d'entreprise, en l'occurrence des chefs d'entreprise, on en parlera après une première pause, parce que à vous entendre, et en même temps Christophe Aubé nous le dira, hein, c'est un travail qu'ils font au sein de leur entreprise, il nous disait ça avant, il faut presque mener une réflexion, avant de créer une entreprise ou tout en la conduisant, mener une réflexion systématique sur la vision que l'on a de l'homme, la place de l'homme dans l'entreprise, la participation de notre entreprise à la vie économique, sa traçabilité écologique. Bref, c'est quand même un chantier large, non, pour un chef d'entreprise ou pour un salarié.
Oui, parce que effectivement, c'est un chantier large, mais c'est un beau défi à relever. Et Christophe nous dira comment relever justement de tels défis. Mais ce qui, je reviens à la première définition du pape François de cette espèce de paradigme, c'est-à-dire de modèle dominant, c'est qu'il est devenu homogène et qu'il parle et il est mis en œuvre dans toute la planète. Et il y a une globalisation des problèmes qui sont mus non pas par justement la recherche humaine de sens ou de bien, mais qui est uniquement proposée pour et conduite par l'économie et spécialement la finance pour une recherche de profit immédiat. Donc il y a des questions de bien, d'éthique, des questions aussi d'immédiateté, de rentabilité immédiate, ou au contraire d'un coût en bourse ou de ceci ou de cela qui fait que le marché ne régule pas la temporalité, le marché ne régule pas l'ensemble de la planète. Et le point de vue de l'Église, c'est essayer de mettre ensemble le point de vue de la politique, le point de vue de l'économie, le point de vue des acteurs, en se disant, nous avons des fractures où la terre est malmenée, la société est mise à mal par l'existence de poches de misère grandissantes.
Plus d'un milliard de personnes qui vivent dans des bidonvilles.
Et c'est à partir de cette réalité du constat qu'il nous faut réorganiser l'ensemble des activités humaines.
On va faire une première pause et puis on va vous retrouver, entre autres Christophe Aubé, pour voir quel écho ça trouve dans la tête et dans le cœur d'un chef d'entreprise qui ne vous empêchera pas d'intervenir. Il va nous dire donc quelle est aussi son activité économique, j'en parlais ce matin, peut-être en teasing. Si vous deviez aller, mon patron là qui est versé dans la communication dit parle d'élévateur pitch, c'est ça, il faut présenter dans son ascenseur en 20 secondes. Alors en 20 secondes, c'est quoi Green Culture? Mettez-nous en bouche avant le... Avant la pause.
Green Culture est une société qui conçoit et exploite des robots agricoles pour le smart farming. Le smart farming, c'est toutes ces techniques qui permettent à l'agriculture d'utiliser intelligemment tout ce qui permet justement la culture, donc les graines, la semence, l'eau et éventuellement les produits phytosanitaires. Donc tous ces éléments-là, aujourd'hui utilisés un peu brutalement par les exploitants agricoles, aujourd'hui on les accompagne pour les utiliser intelligemment et remettre l'homme au centre de la production agricole.
Il est fort, on a envie de rester avec lui dans l'ascenseur. Donc restez avec nous dans l'ascenseur.
Oui, mais là on est déjà au 35e étage.
On fait la pause et on vous retrouve tout de suite après.
Présence.
Emmanuel Pella.
Vie d'entreprise et écologie, c'est pour rappel le thème de l'émission de ce matin, avec autour du plateau Gilles Denroc, prêtre religieux dominicain et enseignant à l'IERP, l'Institut d'études religieuses et pastorales à l'Institut catholique de Toulouse, et Christophe Aubé, chef d'entreprise et membre des EDC, entrepreneurs et dirigeants chrétiens. Vous avez donc présenté brièvement votre entreprise, Agreen Culture, on en reparlera après. Quelle réaction ça suscite chez vous, cette introduction du frère Gilles Denroc? Vaste défi et vaste sujet à aborder en 15 minutes, mais ce qu'on en comprend, c'est que il faut le changer de logique de fond. Ce que j'ai retenu en partie de votre intervention, c'est qu'il faut, et c'est ce que demande le pape François invite à regarder au-delà d'une approche justement d'expert ou de mathématiques, ce que vous disiez aussi, les fruits douloureux de ce système en regardant ceux qui sont marginalisés. Qu'est-ce que vous avez retenu, vous? Qu'est-ce qui vous a frappé, Christophe Aubé?
C'est très intéressant et il faudrait plus d'une heure, bien entendu, pour traiter tous ces sujets-là. Mais moi, j'aimerais bien rebondir sur les différents points qui ont été traités. Sur le paradigme technocratique, où on pourrait réduire à une critique de la situation. Moi, j'aimerais bien, parce que j'aime bien voir ça du bon côté, même si ce qui est clairement évoqué par le frère, c'est qu'il faut être critique vis-à-vis de ce paradigme. Aujourd'hui, on a quand même vu, et pour parler du milieu agricole, qui est le domaine dans lequel on travaille, on voit quand même que la rationalisation des structures de production, en fait, a permis de nourrir une population plus grande et de réduire les famines. Et en fait, on le voit globalement en France, il n'y a plus de famine. Il y a famine depuis 1789, et cela, de fait, via une rationalisation. Et en fait, le paradigme technocratique, même s'il faut en être critique, il l'apporte et il porte des fruits.
Alors là, vous parlez du paradigme technocratique, mais peut-être que vous faites une erreur un peu dans les termes, si je peux me permettre. C'est-à-dire que toute rationalisation n'aboutit pas à un paradigme technocratique.
Tout à fait, bien entendu. Mais encore une fois, pour le domaine de l'agriculture, où on a tendance à dire on va tout rationaliser et on va tout détruire pour garder des énormes exploitations, aujourd'hui, est-ce que finalement cette rationalisation ne permettra pas de nourrir plus, et en tout cas les populations qui pourrait être.
On va laisser réagir, frère Gilles Denroc. Allez-y, vos autres réactions, et puis après
Les autres réactions, encore une fois, très, très simples de mon point de vue, c'est pour la partie écologie d'économie. Aujourd'hui, il est très simple de se donner bonne conscience dans l'entreprise et même dans la société en disant. Je vais rouler avec un véhicule électrique et donc je rentre dans une démarche écologique. J'offre un produit dit biologique à mes clients et donc je rentre dans cette démarche d'écologie globale dans la société. Et en fait, pour moi, l'économie est une très longue chaîne où il y a différents acteurs. Et si la chaîne au complet n'est pas dans cette démarche écologique, et donc là je pense que le terme d'écologie intégrale a du sens, alors il n'y a pas du tout d'écologie. Je vais prendre deux exemples. Aujourd'hui, on est un peu effaré par la quantité de gaz à effet de serre que l'on peut rejeter sur les rejeter dans l'atmosphère. Et en fait, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'une agriculture biologique est une agriculture qui va consommer énormément de carburant parce que ça va nécessiter beaucoup de mécanisation. Est-ce que on peut considérer qu'un produit biologique est vraiment écologique pour la société? C'est une question ouverte, mais encore une fois, il faut considérer la production dans sa totalité. Un autre exemple très très simple qui m'avait choqué il y a quelques mois, une société avait décidé de fournir des sacs respectant la nature. disant que c'était un produit issu de l'agriculture biologique. C'est très bien, pourquoi pas. Et en fait, des journalistes se sont rendus compte que ça a été fabriqué par des mineurs dans un pays sous-développé. Et encore une fois, s'il n'y a pas une écologie intégrale, alors ça n'a aucun sens. Et même si nos sociétés occidentales peuvent se donner bonne conscience en achetant ces produits-là, pour moi, il y a un écart phénoménal entre nos sociétés qui vivent dans cette écologie et ceux qui la subissent. Voilà.
Alors, vous avez tous les deux beaucoup de choses à dire, ça tombe très bien. J'aimerais, Frère Gilles Roque, vous pourrez réagir évidemment, mais puisque vous êtes là entre autres pour donner votre témoignage aussi, Christophe Aubé, racontez-nous au sein d'Agrin Culture, et vous pouvez du coup réexpliquer quel est le cœur de votre activité. Et en quoi vous considérez, vous êtes un bon exemple d'une vie d'entreprise qui essaye d'être écologique.
Alors, rappelez en deux mots ce qu'est la société Agrin Culture. Agrin Culture est une société qui fait et qui développe des robots agricoles. Alors,
Entreprise récente, hein, vous avez 7-8 ans, c'est ça ou...
Oh, bien moins que ça, on a 3 ans.
3 ans, d'accord.
3 ans. On développe des robots agricoles et donc qui vont permettre de faire des activités dites à faible valeur ajoutée pour replacer l'agriculteur, l'exploitant agricole sur les activités à plus forte valeur ajoutée. Alors concrètement, qu'est-ce que c'est ? On voit bien que l'agriculture est en pleine mutation aujourd'hui et la société veut que l'agriculteur repense son activité avec moins de produits phytosanitaires, moins de pesticides et utilisant moins d'eau, utilisant moins d'engrais. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, la mécanisation, les outils agricoles que les agriculteurs ont dans leur cours de ferme ne permet pas forcément de réaliser ces activités-là pour utiliser intelligemment tous ces intrants, ce qu'on appelle intrants.
Du coup, vous avez conçu des machines ou des robots qui font le travail de manière très précise, c'est
ça ? Qui vont le faire de manière très précise et ne vont pas demander à l'agriculteur de s'impliquer plus. Et donc, finalement, on propose une solution avec deux volets. Un aspect écologique, en utilisant moins de produits phytosanitaires, moins d'engrais, on va de fait essayer de polluer beaucoup moins. Et en replaçant l'agriculteur qui ne sera plus asservi à son outil de travail, il faut imaginer qu'un agriculteur qui va désherber mécaniquement un champ de travail, c'est juste être au volant de son tracteur à suivre des sillons. Alors nous, on lui dit, écoutez, vous considérez que ce travail prend du temps, et bien nous, on va le faire de manière autonome et vous allez vous replacer au cœur de la production, être sur le terrain, voir ce qui se passe bien, comment les plantes poussent et tout ça. Donc,
c'est-à-dire dégager du temps pour quoi ? Pour réfléchir,
dégager
pour superviser,
du temps pour réfléchir, superviser effectivement, en fait, faire son métier qui est un métier d'agronome, se savoir si les plantes poussent bien, si elles ont des maladies, passer du temps auprès de la plante plus que dans un tracteur. Et c'est la solution que l'on cherche à apporter aux agriculteurs via les robots.
Et ça marche ?
Et ça marche.
Vous êtes dans une phase un peu de recherche-développement pour l'instant ou est-ce que vous en vendez et...
on a commencé, alors on a différents robots. On a des robots de plus petite taille qui sont exploités sur des sapins de Noël. L'idée derrière, c'est la société veut des sapins de Noël sans aucun produit phytosanitaire. Le passage d'un désherbant défoliant à un travail mécanique prend beaucoup plus de temps. L'agriculteur n'a pas ce temps-là, alors nous lui proposons un robot pour aller tout simplement tondre entre ces sapins de Noël pour que vous ayez à Noël des sapins sans résidus de produits phytosanitaires.
Frère Gilles Denroc, alors on va vous demander une réaction. C'est vrai que de prime abord, quand Christophe Aubé, en préparant l'émission, nous disait, alors je ne veux pas trahir votre expression, mais c'est des robots au service de l'homme ou pour remettre l'homme au cœur de l'activité, c'est pas la première réaction que l'on a, mais preuve que... C'est la preuve par l'exemple qu'un bon usage de la technologie peut être dans une logique d'écologie intégrale. Qu'est-ce que ça suscite comme réaction chez vous, Frère Gilles Denroc ?
Tout d'abord, j'ai proposé de nous entendre sur les mots. La technoscience, ce n'est pas la technocratie. Vous m'avez répondu par un autre mot qui demande un développement... C'est vrai que ces mots sont utilisés dans le texte, parfois sans prévenir, c'est-à-dire qu'on passe, on semble glisser de l'un à l'autre. Moi, je propose de garder la question techno-science avec sa méthode et son activité que l'on connaît bien dans l'histoire jusqu'à nos jours. Et ces sciences et techniques sont quand même venues en Europe dans un contexte à la fois de culture chrétienne, mais aussi de philosophie anthropocentrée, c'est-à-dire centrée sur l'homme, c'est-à-dire décentrée de Dieu. Je cite Descartes, l'homme est comme, quand il arrive justement à dominer l'étendue, l'espace-temps, il devient maître de la nature, maître et possesseur de la nature. Alors que, en bonne vision chrétienne, nous sommes locataires de la terre, on n'est pas propriétaire de la terre. Donc, c'est ceci qui a donné lieu à des sociétés qui ont organisé l'économie, d'abord, sous le contrôle du politique, et c'est la médiation technocratique, comme vous avez dit, des technocrates, des experts, qui vérifient que la méthode est appliquée, que la rationalité est à l'œuvre, et que les mesures pour que ça marche sont en mouvement. Et ensuite, nous avons parlé de technostructure, nous avons parlé aussi du rôle de la finance. Et la finance, elle, intervient aujourd'hui.
Mais Frère Gédroc, juste pourquoi vous faites toutes ces précisions? Qu'est-ce qui vous gênait dans le propos introductif de Christophe Aubé?
Je termine juste sur la question de la finance, c'est que elle introduit une nouvelle dimension qui est une finalité en soi, qui est la rentabilité maximale et immédiate, à court terme.
D'accord,
et c'est comme ça que ça fonctionne.
Ça, ce n'était pas l'objet de la remarque de Christophe Aubé.
Je peux m'inscrire en contre sa première observation sur l'agriculture. Ayant vécu pendant une vingtaine d'années dans un pays extrêmement pauvre comme Haïti, et j'ai vécu au milieu de paysans, j'ai vu les conséquences de la révolution verte, la rationalisation de l'agriculture. C'est que la FAO a conclu dans les années 90 que nous étions capables de produire tout ce qui est nécessaire pour que l'humanité puisse se nourrir, et se nourrir correctement, dignement, si je puis dire, 3 repas par jour, etc. Mais les propres paysans qui travaillent à cette agriculture verte sont incapables d'acheter la production qu'ils font eux-mêmes. C'est-à-dire qu'il y a un problème, la faim dans le monde est aussi un problème de finance. C'est-à-dire que le développement techno-scientifique financier aboutit sur le terrain à parfois des contradictions de prix et de marché telles que on ne peut même pas utiliser, un paysan indien ne peut pas manger ce qu'il produit parce que c'est trop cher. Donc, après, il se débrouille dans les marges de la société. Donc, c'était sur ce point rationalisation, oui, non, parce que la FAO a conclu à ce problème dans les années 90, c'est un constat mondial.
Alors pardon, merci beaucoup de cette intervention. On s'était dit, Christophe Aubé aussi, et forcément, je pense que c'est une question que se posent les auditeurs. Quand on parle de vie d'entreprise et d'écologie, on se pose des questions aussi plus simples au-delà de l'activité. Est-ce que tout le monde n'a pas une activité comme vous directement en lien avec le sujet du jour? Chaque personne, comme chaque communauté et comme chaque entreprise, est probablement appelée à faire une révolution écologique. Alors probablement que ça comprend une réflexion sur la place de l'homme dans la vie de l'entreprise et la finalité de la vie de l'entreprise, mais aussi par des gestes, tout simplement. Est-ce que vous, c'est quelque chose que vous avez essayé de mettre en place dans votre jeune entreprise pour essayer d'être aussi cohérent? Et qu'est-ce que vous avez mis en place?
Il est évident que l'écologie, effectivement, est une valeur de l'entreprise auxquels les salariés doivent adhérer, sinon je pense qu'ils ne seraient pas à leur place. Donc on a effectivement institué un certain nombre de règles, mais en fait c'est absolument pas des règles, c'est l'ADN de la société, et tout le monde y adhère sans aucun problème. Et en fait, comment s'exprime l'écologie dans les petits gestes du quotidien, parce qu'en fait c'est ce que l'on demande et les gens y adhèrent. Y a la première partie qui est sur les voyages. On est amené à se déplacer extrêmement régulièrement, puisqu'on a effectivement des clients qui sont un peu partout en France. Et on a demandé à ce que, autant que faire se peut, les voyages soient faits éventuellement en covoiturage. Il y a pas longtemps, je suis parti alors que je pouvais prendre un avion, un train en covoiturage de Toulouse jusqu'à Aix-en-Provence, pour deux raisons. La première, c'est que il y avait une voiture qui partait et qui me déposait au pied de l'entreprise, donc c'était parfait. Et d'autre part, le lien qui est créé dans ces voyages-là, lors de ces voyages, plus que dans un train de fait, est quelque chose que l'on recherche et que l'on aime bien.
Alors, premier exemple, le covoiturage.
Covoiturage.
Si vous aviez quelques autres exemples.
Après, on est à proximité du canal. Et en fait, les déplacements...
Canal du Midi.
Le canal du Midi. Les déplacements sont largement favorisés à vélo plus qu'en voiture. Et ça, comme on doit déménager, c'est quelque chose qu'on va essayer de porter et de continuer à le permettre aux salariés, parce que c'est quelque chose qui est clé... en plus de la petite des 5 minutes de sport que l'on fait le matin et le soir.
Moi, j'avais une question quand même sur ce qu'on appelle les entrants et les sortants. Si j'ai bien compris, quand on y réfléchit, on se demande ce qui entre et ce qui sort de l'entreprise. On peut imaginer que vous, vous faites appel à un certain nombre de technologies et donc de produits particuliers. Est-ce que vous avez une réflexion là-dessus ? Est-ce que tout ce qu'il y a dans vos robots, pour dire les choses très grossièrement, vient de pas trop loin, sont pas des produits dangereux ? Enfin, excusez-moi, hein, c'est des réflexions très basiques, mais peut-être que certains auditeurs sont aussi basiques que moi. Est-ce que c'est une réflexion que vous avez menée ou vous pensez mener ?
Alors, il y a effectivement une réflexion qui est menée, et il y a une réalité économique. Aujourd'hui, on a une réflexion long terme. On essaye de voir quel sera le produit idéal que je pourrais mettre sur le marché dans 4, 5, 6 ans. Et en attendant, il faut quand même que ce produit tourne pour pouvoir l'améliorer.
Alors, quels sont les objets de difficulté ou de tension, expliquez-nous.
Et aujourd'hui, on n'est pas encore convaincu par la réalité écologique de la batterie. C'est tout bête, hein. Mais aujourd'hui, une batterie, même si on dit que c'est quelque chose qui se recharge très rapidement pour la mettre dans nos robots, pour qu'ils soient complètement autonomes, on a dit c'est quelque chose qui, quand elle est terminée, quand elle est complètement usagée, qu'est-ce qu'on va en faire ? Et moi, je n'arrive pas à me résigner à me dire que ça va partir en Afrique, ça sera désossé, et puis on ne sait pas ce que ça va devenir. Donc, justement, dans cette réflexion d'écologie intégrale, je ne peux pas avoir une réflexion qui va se terminer au moment où le robot sera rebuté. Donc, on a envisagé un système qui utilisera l'hydrogène dans 4-5 ans, ce qui fera l'objet de mon coup de cœur. L'hydrogène, mais en attendant, qu'est-ce qu'on fait ? C'est un système qui est hybride, qui va utiliser intelligemment, encore une fois, des énergies fossiles, mais on espère le plus intelligemment possible, et des technologies de batterie au plomb qui, elles, sont recyclables à 100%.
Eh bien, c'est très bien, vous nous avez fait la transition. On va faire une deuxième pause et puis on va vous retrouver pour votre coup de gueule et coup de cœur en lien avec l'actualité. On commencera peut-être par le coup de cœur. En l'occurrence, donc, c'est Symbio, qui est maintenant devenue une filiale de Michelin. Et vous nous expliquerez après la pause, parce que c'est compliqué, surtout pour un journaliste pas très versé dans ce genre de sujet, la technologie de cette entreprise. Thank you.
présence dans la Haute-Ariège, 92.7.
Vivante Église, Emmanuel Pella.
Vie d'entreprise et écologie, c'est pour rappel le thème de l'émission de ce matin, émission mensuelle en partenariat donc avec les EDC, entrepreneurs et dirigeants chrétiens, et le MCC, mouvement chrétien des cadres et dirigeants, même s'ils ne sont pas représentés ce matin, quoique si le frère Gilles Danroc a été envoyé par le MCC, donc autant pour moi. Comme d'habitude, un coup de cœur, un coup de gueule, donc vous allez avoir la part belle, Christophe Aubé, puisque vous êtes seul, mais ça permettra quelques commentaires. On va commencer par votre coup de cœur, donc c'est l'entreprise donc Symbio, Michelin et Faurecia développent une pile à combustible. Expliquez-nous ce que c'est qu'une pile à combustible et pourquoi c'est un coup de cœur surtout.
Alors, pourquoi un coup de cœur, cette activité économique? On est convaincu que, et je le disais dans la deuxième partie de cette émission, que l'hydrogène a un grand avenir en France. Pourquoi? Parce que c'est une source d'énergie presque inépuisable que l'on peut produire de manière extrêmement saine. Et donc sans avoir de rejet de gaz à effet de serre la réaction de l'hydrogène pour créer de l'énergie permet en fait d'alimenter des véhicules pour se déplacer.
Donc, là en l'occurrence donc la Renault Kangoo Z2 à motorisation 100% électrique modifiée par l'entreprise française Symbio, son autonomie, je vais y arriver, est doublée grâce au courant produit par une pile à combustible alimentée par un réservoir d'hydrogène.
Tout à fait.
Ouais. Donc, on n'a pas tout compris mais on imagine que c'est très bien.
Non,
si vous arriviez à nous expliquer en quelques mots ce que ça veut dire,
comment ça se passe,
on se sentirait moins bête.
Vous prenez un véhicule électrique, j'ai envie de dire basique, vous lui retirez son énorme pack batterie, donc toutes ces batteries qui permettent que la voiture puisse se déplacer. Vous mettez une pile à combustible, donc c'est un système qui prend de l'hydrogène, qui va créer de l'électricité, tout simplement, la voiture repart. Et donc, de la même manière que vous remplissez votre réservoir en essence, en diesel, vous pouvez le remplir en hydrogène et vous repartez. L'intérêt, c'est que...
L'hydrogène, ça se produit comment?
Alors, il y a plein de méthodes différentes. C'est quelque chose qui est encore un petit peu complexe, et d'où mon coup de cœur. Mais quelque chose qui va, on espère, se démocratiser parce que l'automobile s'empare de ce sujet-là pour, d'une part, simplifier le process de production d'hydrogène et sa distribution.
Et vous disiez, pour le monde agricole, que quand l'automobile décide quelque chose, in fine, ça finit par arriver dans le monde agricole, c'est ça ?
Le monde agricole suit avec un peu de retard ce qui se fait dans l'automobile. Une fois que la recherche et développement est réalisée dans le milieu automobile, le milieu agricole s'empare de ces technologies-là. Et donc, globalement, si le Faurecia et Michelin s'emparent de ce sujet-là, alors on espère bien pouvoir être acteur de l'utilisation dans nos robots de l'hydrogène et donc permettre vraiment d'avoir une agriculture saine via nos robots dans le futur.
Le coup de gueule, c'est en lien donc avec le Salon international de l'agriculture qui s'est tenu à Paris donc du 23 février au 3 mars. Expliquez-nous l'objet de votre coup de gueule. C'est un événement, si j'ai bien compris, vous désoliez, comme probablement beaucoup de Français, c'est un peu l'idée que l'on a. On fête les agriculteurs pendant le temps du salon et puis le reste de l'année, ils ne sont pas à l'honneur. C'est
tout
ça, tout
simplement. C'est un peu ça. On a, pendant le salon de l'agriculture, nombre de politiques, de médias qui vont mettre en valeur cette belle agriculture française qui fournit des produits de qualité avec une traçabilité qui est hors du commun et je pense qu'il faut en être fier. À côté de ça, l'agriculture subit des attaques assez violentes pour preuve, un agriculteur a été presque tabassé la semaine dernière parce qu'il traitait avec des produits phytosanitaires. Donc l'agriculture subit des attaques assez violentes sur l'utilisation. Je prends l'exemple du glyphosate, tout le monde en est conscient. Donc on impose à nos agriculteurs des pratiques culturales sans produits phytosanitaires. L'agriculteur est prêt. L'agriculteur, je ne connais pas d'agriculteur qui ne soit pas prêt à migrer vers une agriculture éco-responsable, responsable ou même écologique. Il n'y a aucun problème.
Alors quel est l'objet du coup de gueule?
Le problème, c'est que à côté de ça, le consommateur veut toujours le produit le moins cher possible. Et le produit le moins cher possible, quelquefois, il vient de pays relativement loin qui ne suivraient pas les mêmes règles. Et quand on demande à nos agriculteurs de ne plus utiliser de glyphosate et quand un blé argentin, par exemple, pour qu'il sèche plus rapidement et traité au glyphosate pour qu'il puisse être récolté rapidement. Alors, je comprends cette frustration des agriculteurs en disant « mon blé va être plus cher parce qu'on m'impose des pratiques culturales et celui des argentins, qui plus est traité au glyphosate, arrive sur mon marché. »
Donc le coup de gueule, c'est à l'adresse de tout un chacun, de religieux compris, sur les pratiques de consommation, c'est ça ?
Sur les pratiques de consommation, d'une part, et sur l'incohérence de nos politiques aujourd'hui, à imposer des choses à certains et à laisser entrer d'autres produits qui ne suivent pas du tout les mêmes règles.
Fragile d'Enroc, vous vouliez réagir ?
Non, mais je pense que le problème du prix du blé, il est réglé à la bourse de Chicago. Le commerce des grains, c'est le deuxième commerce mondial après le commerce des armes. Et vous savez que ce que vous allez créer, ce que nous sommes en droit d'espérer, c'est des petites poches de résistance par rapport à l'utilisation de cette espèce de bulldozer, prenons un petit exemple agricole, qui fait qu'il y a la question de la rentabilité immédiate des marchés. Et ceci est quelque chose que nous devons...
Vous voulez dire que le cours du blé est décidé, loin des préoccupations des agriculteurs,
mais on
spécule sur les cours du blé, c'est ça que vous voulez dire?
Absolument, et que c'est ces spéculations-là qui ont un effet sur les marchés beaucoup plus que nos tentatives de... Et qu'il faut faire, et ça, je suis tout à fait d'accord avec vous, qu'il faut créer des poches de résistance et justement d'une autre consommation, incluant d'autres types de budgets, de structures du budget des familles, des communautés religieuses. Moi, je suis le premier à me dire que c'est vraiment dommage de ne pas réfléchir à ce que nous mangeons, comment ça nous vient, comment... Et puis...
C'est vrai qu'il y a maintenant un label Église verte, on va en parler bientôt.
Oui, tout à fait.
On va parler la semaine prochaine.
Voilà.
Juste, quand je vois le temps passer, Christophe Aubé, j'avais une question sur ce sujet. Il ne s'agit pas d'être exhaustif, mais la relocalisation des marchés, ou en tout cas l'action responsable des citoyens sur ce sujet, vous qui êtes fils d'agriculteur et puis qui baignez quand même pas mal là-dedans, c'est quand même, la solution majeure pour essayer de soutenir nos agriculteurs?
C'est une solution. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de petites structures qui vont vendre des produits locaux. Et nous, on est les premiers utilisateurs de ces structures-là, où un agriculteur rassemble un certain nombre de produits de producteurs locaux et vient tous les vendredis nous livrer.
Pourquoi vous dites que c'est une des solutions? Parce qu'il faut y ajouter quoi comme deux, trois grosses autres solutions?
Parce que ça marche très bien quand il y a un foyer de population important à proximité. À 50 km autour de Toulouse, nous avons ce foyer de travailleurs toulousains qui fait qu'il y a une pertinence de ce modèle économique. Au fin fond de nos départements, à 300 km de Toulouse, si on commence à rajouter tous les kilomètres réalisés, là on commence à déstabiliser ce modèle-là et il peut être un tout petit peu moins pertinent. Donc il y a différents modèles à repenser, mais encore une fois, ce qui marche très bien à proximité de Toulouse ne marchera pas forcément au fin fond de nos départements. Donc il y a plein de modèles à envisager, qui se créent, et nous on s'intéresse énormément à ces nouveaux modèles.
Bref, de quoi faire une autre émission. Alors comme il n'y avait pas un témoin pour le MCC, je voulais faire part d'un d'un coup de gueule. C'est la loi Pacte donc, qui revient en deuxième lecture à l'Assemblée nationale. Il avait été un temps évoqué la possibilité que cette loi Pacte modifie l'objet social de l'entreprise dans le code civil et que l'entreprise ait pour finalité de travailler au bien commun, pour dire les choses de manière courte. Et dans le journal La Croix, le 13 mars dernier, j'ai vu donc cet appel signé par une quinzaine d'organisations et d'ONG, dont le CCFD Terre Solidaire et le CERAS, donc accompagnés par les jésuites, se désolant que cette modification donc, de l'objet social de l'entreprise ne figure plus dans cette loi Pacte, ou qu'il figure sous ce terme, gérer dans son intérêt social, que l'entreprise soit gérée dans son intérêt social en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité. J'ai cru comprendre que environnementaux c'était une bonne nouvelle, mais que gérer dans son intérêt social, ça restait un petit peu court et qu'on était loin de la notion du bien commun. Mais on en reparlera, on fera une émission prochainement. Merci beaucoup d'être venu ce matin au micro de Vivante Église pour cette émission Vie d'entreprise et écologie. On va citer un ouvrage pour finir, ou deux. Laudate aussi pour une écologie intégrale, paru aux éditions Artege Letiéleu. Laudate aussi pour une écologie intégrale, sous la direction donc, de Gilles Denroc, entre autres, Artege Letiéleu. Et ce magnifique livre qui se vend, il paraît très bien. Laudate aussi, donc l'encyclique du pape François, mais avec des illustrations, donc des images, images prises du ciel, de Yann Arthus Bertrand, célèbre photographe. Si vous aviez, allez, en 30 secondes, pourquoi est-ce que c'est un ouvrage qu'il faut acheter et offrir ?
Ben parce que c'est visualiser, donner à voir tout le contenu même de Laudato Si, à savoir la magnifique beauté de la création qui vraiment se manifeste, surgit, jaillit à chaque image, et en même temps la capacité prédatrice et destructrice de l'homme quand on voit des terres saccagées de par le monde et qui génère cette pollution qui nous étouffe.
Merci beaucoup d'être venu ce matin au micro de Vivante Église et merci aux EDC et au MCC. Cette émission a été réalisée par Christophe Aubry. Vous pouvez la réécouter ce soir à 21h ou la retrouver en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain.
Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00. 05 62 48 63 00 ou par mail à contact@radioprésence.com.